François, accélérer l'industrialisation du Cameroun, se tourner résolument vers l'économie de production et de transformation et maintenir le cap de la croissance, taux projeté à 4,1% en 2025 dans le 20e regard économique à la lumière du message du chef de l'État à la nation. Ça bouge au Sénat. La chambre haute du Parlement a un nouveau secrétaire général, Gustave Léopold Ngane. Son portrait dans le 20e plus sport football. Égalité parfaite à Garoua entre locaux et visiteurs. Coton Sport, Gazelle de Garoua, Astre de Douala et Aigle du Mongo se partagent les points de la 6e journée avancée. MTN Elite One, un point chacun suite et fin de cette étape ce dimanche. Bienvenue au 20h. La résilience de l'économie camerounaise s'est encore manifestée en 2024. Le pays le doit à une série de mesures fortes, notamment le réajustement des prix du carburant à la pompe avec plus de peur que de mal. Et malgré une situation macroéconomique peu confortable, la barque du Cameroun reste à flot. Le commentaire de Oswald Mudung.
Cette forte connotation économique du discours du chef de l'État à la nation, en tant qu'économiste, m'a conforté dans mes analyses. Le président de la République a prononcé le mot qu'il fallait, l'industrialisation du Cameroun. Il a évoqué plusieurs pistes, mais deux ou trois principales pistes ont retenu particulièrement mon attention, c'est-à-dire l'exploitation de la bauxite, dont l'exploitation des gisements de fer, et à travers ces deux matières premières, la mise sur pied des chaînes de valeur nationales.
On va revenir sur Oswald Mudung après cette erreur d'aiguillage. La résilience de l'économie camerounaise s'est encore manifestée en 2024. Le pays le doit à une série de mesures fortes, notamment le réajustement des prix du carburant à la pompe, avec plus de peur que de mal. Commentaire Oswald Mudung.
La consolidation de la croissance économique de notre pays est désormais une réalité. Le Cameroun est...
Encore une fausse note dans ce journal. J'espère qu'on va retrouver Oswald Mudung tout à l'heure. Le temps de vous dire que dans son message à la nation le 31 décembre 2024, le chef de l'État a réitéré l'engagement des pouvoirs publics à consolider la croissance économique nationale malgré la morosité due à des facteurs beaucoup plus exogènes. Paul Biya a également mis en exergue les premiers fruits de la politique de l'import-substitution. Nous l'écoutons dans cet extrait qui va suivre.
La consolidation de la croissance économique de notre pays est désormais une réalité. Le Cameroun est régulièrement apprécié par les instances financières compétentes pour sa résilience. Malgré un contexte international particulièrement difficile. En effet, nous n'avons pas été épargnés ces dernières années par une série de chocs exogènes. La guerre en Europe de l'Est, les conflits au Proche-Orient, la morosité du marché des capitaux et des matières premières, les perturbations climatiques, les tensions inflationnistes et les fluctuations des cours du pétrole ont ralenti nos perspectives de croissance. Mais, en dépit de cet environnement difficile, l'économie camerounaise a enregistré un regain d'activité, avec un taux de croissance estimé à 3,8% en 2024 et projeté à 4,1% en 2025. Les mesures prises pour limiter les comportements spéculatifs et accroître l'offre des produits de première nécessité ont contribué à réduire l'inflation 7,4% en 2023 à 5% cette année. La maîtrise de l'inflation devrait se poursuivre en 2025 pour se situer à 4%.
La troisième fois sera la bonne, je l'espère, avec Oswald Modoun qui nous parle de la résilience de l'économie camerounaise qui s'est encore manifestée en 2024.
Au moment où la page de 2024 se tourne, le coup d'œil dans le rétroviseur permet de mieux visualiser tout ce par quoi le Cameroun a dû passer sur le plan économique. Situé à la sortie d'une crise sanitaire d'envergure qui a freiné toute l'économie mondiale et en plein conflit israélo-palestinien, sans compter une guerre russo-ukrainienne aux conséquences économiques sans précédent, les voyants étaient plutôt rouges pour les économies. Plus encore, pour celles des pays dits en voie de développement comme le Cameroun. Les conséquences étant alors la morosité enregistrée dans le marché des capitaux, les fluctuations des cours du pétrole et autres tensions inflationnistes. Et là, c'était déjà sans compter avec des crises sociopolitiques internes qui ont littéralement paralysé certaines régions du pays, pour parler du Cameroun. Dans cet environnement difficile, le pays a su tirer son épingle du jeu en faisant mieux que résister à ces différents chocs. Résultat des courses, un regain d'activité de l'économie camerounaise, de quoi envisager un taux de croissance en hausse en 2025. C'est également la conséquence de mesures prises en amont pour limiter les comportements spéculatifs et accroître l'offre des produits de première nécessité. Toute chose qui a permis de voir l'inflation chuter à 5% en 2024 contre 7,4% l'année d'avant. Mais le pays ne saurait dormir sur ses lauriers parce que, en définitive, on peut toujours faire mieux. C'est ce que les Camerounais attendent et c'est légitime. Des efforts supplémentaires doivent être fournis par le gouvernement pour améliorer le cadre de vie et même la vie des populations.
De l'énergie qui jaillit et de l'eau qui coule à flot, tels sont les défis vitaux que le Cameroun s'engage à relever en ce début d'année 2025, en réaffirmant la volonté de renforcer les capacités de production d'électricité et d'eau potable. Le chef de l'État fixe le cap d'une promesse ambitieuse, mais nécessaire face à une demande qui ne cesse de croître. Jules-Claude Bon-Etundi.
Des kilowatts contre les délestages, le Cameroun mise sur le barrage de Lompangar et celui de Natigal pour éclaircir de manière permanente les grandes villes du pays. Le docteur Guy Gouette est spécialiste d'intelligence économique.
Il faut savoir que le déficit énergétique actuel constitue un frein majeur à la croissance. L'augmentation de la production électrique par la valorisation de notre potentiel hydroélectrique ainsi que le développement des énergies renouvelables aujourd'hui est un impératif. C'est-à-dire que cette diversification des sources énergétiques peut clairement nous permettre de réduire la dépendance aux énergies fossiles.
Les projets photovoltaïques et les 360 centrales solaires en cours de construction par l'État épousent cette ambition. Pour la période 2020-2030, l'objectif est de porter à 5000 MW la capacité énergétique installée. Emmanuel Lao est ingénieur statisticien économiste.
Tout ceci, c'est pour mieux répondre aux besoins spécifiques tels que la cuisson des aliments, les transports notamment urbains, l'électrification urbaine, des industries manufacturières d'une part et devenir un pays exportateur d'énergie d'autre part.
Des milliards de gouttes supplémentaires, il en faut aussi en 2025. La réhabilitation de la station d'eau de Japuma à Douala coule comme une évidence. En 2024, 8000 ménages ont été connectés au réseau de distribution d'eau potable à Yaoundé. Le véritable enjeu demeure la réduction des inégalités régionales et l'assurance d'une gestion durable.
Il est possible pour le Cameroun de devenir un véritable hub industriel grâce aux richesses de son sous-sol. Pour ce faire, il est bon d'asseoir la promotion de la main-d'œuvre locale, le transfert des technologies et la transformation des matières premières issues du sous-sol camerounais. Le discours du chef de l'État devrait faire résonner cette logique de développement selon les économistes et experts en gouvernance. Sylvain Yangman.
Puiser dans le sous-sol et ramener à la surface le développement certain, explique le socio-économiste Bertin Léopold de Kouayep.
La mise en place des mini-industries, on est aujourd'hui un des pays qui a un sous-sol assez riche. L'exemple du fer de Balam, la bauxite et autres qu'on a dans notre sous-sol, de la transformation du bois qui devrait au moins subir cette première transformation avant l'exportation qui, jusqu'à ces jours, ne s'est jamais véritablement mise en place.
Énergie renouvelables et richesses du sous-sol. Le lien est tout trouvé. Eric Guéguim, directeur du Centre de formation en énergie renouvelable d'Afrique centrale.
Le Cameroun peut développer l'éolien, la biomasse humide. Également aussi produit ce qu'on appelle la biomasse solide. Il ne s'agit pas de la déforestation. Compenser notre déficit énergétique.
La transformation des matières premières, source de création des richesses multiples à prendre en compte. Loris Serge Tekielundu, économiste.
Utiliser en grande majorité la main d'œuvre niveau local pour employer les centaines d'ingénieurs et techniciens supérieurs produits chaque année par le système d'enseignement supérieur dans les domaines des mines, forêts et bois, tout en mettant l'accent sur le transfert des technologies. Étant donné que ces ressources naturelles sont tarissables, l'on devrait utiliser les ressources issues de cette exploitation pour mettre en place un système économique à forte valeur ajoutée, compétitif et qui s'auto-entretient.
Le discours du chef de l'État à la nation a bien fixé le cap pour une émergence qui vient du sous-sol.
Autant elle pose le diagnostic de l'année qui s'achève, autant l'adresse du chef de l'État donne des orientations précises aux actions à conduire par le gouvernement tout au long de la nouvelle année. Véritable temps fort de la vie d'une nation, les experts n'ont pas manqué de scruter les mots du président de la République du Cameroun sur le volet économique entre avancée et chantier. La barque reste à flot malgré une situation globale tendue. Écoutons le professeur Henri Ngouattabi, économiste, chercheur et enseignant d'université.
Cette forte connotation économique du discours du chef de l'État à la nation, en tant qu'économiste, m'a conforté dans mes analyses. Le président de la République a prononcé le mot qu'il fallait, l'industrialisation du Cameroun. Il a évoqué plusieurs pistes, mais deux ou trois principales pistes ont retenu particulièrement mon attention, c'est-à-dire l'exploitation de la bauxite, dont l'exploitation des gisements de fer et, à travers ces deux matières premières, la mise sur pied des chaînes de valeur nationales. Et ces chaînes de valeur, c'est elles vraiment qui sont le socle de l'industrialisation et qui portent sur le mot ou alors la phrase « la transformation structurelle ». C'est ça que nous recherchons exactement, l'industrialisation du Cameroun. Dès que le Cameroun est industrialisé, il y a plus de création de richesses, il y a plus de création d'emplois, il y a un fort taux de croissance et c'est justement dans cette direction qu'il faut aller. Le Cameroun a intégré la gestion des chocs dans la mise en œuvre de la SND 30. Cela est bien détaillé dans ce document. Il faut donc noter que cette résilience est surtout due au fait que notre économie connaît une certaine diversification de sa production et la diversification vous permet donc d'amortir les chocs. C'est pour cela que vous voyez le volet agroalimentaire, agro-industriel a été évoqué, le volet transformation du bois a été évoqué et bien entendu le volet de la bauxite et du fer qui sont des projets phares aujourd'hui qui vont mieux structurer le complexe industrialo-portuaire aussi ont été évoqués. Et cette diversification de l'économie permet donc d'avoir une bonne résilience pour que la situation ne s'aggrave pas.
Des nouvelles du Sénat. Gustave Léopold Ngane est le nouveau secrétaire général de la Chambre haute du Parlement. C'est l'essentiel à retenir à l'issue de la réunion du bureau du Sénat tenue ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé. Les travaux étaient coordonnés par le premier vice-président Aboubakari Abdoulaye. Le nouveau secrétaire général du Sénat remplace à ce poste Michel Mova Mobutu. Au sortir de cette réunion, le vice-président du Sénat Robert Nkili a donné la quintessence des travaux à la et capté par Julien Paul Ngono.
Le président du Sénat a demandé au bureau de se réunir pour un point à l'ordre du jour, faire avancer la maison. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, la vision du président du Sénat, c'est que le Sénat avance. Alors pour que le Sénat avance, il faut des responsables en premier. Vous savez que le titulaire du secrétariat général est indisponible depuis des années pour raison de maladie. Le président du Sénat a décidé de proposer au bureau la nomination d'un nouveau secrétaire général. Il n'est pas allé chercher loin, il a pris un Camerounais digne de ce nom, patriote, qui était son conseiller technique au cabinet, M. Ngane. Nous voulons que le Sénat fonctionne. Nous avons donc eu pour tâche aujourd'hui de nommer un nouveau secrétaire général qui a été accepté par toutes les instances. Monsieur Ngane est le nouveau secrétaire général du Sénat.
On n'a pas cherché loin. Qui est donc Gustave Léopold Ngane, le nouveau secrétaire général du Sénat? Son portrait avec vous, Julien Paul Ngono.
Âgé de 62 ans, Le natif de Kampo dans le sud Cameroun est un administrateur civil principal hors échelle, distrait et rompu à la tâche. Avant sa désignation, ce jeudi 2 janvier par le bureau du Sénat, Gustave Léopold Ngané a occupé les fonctions de conseiller technique au cabinet du président du Sénat où il a posé ses valises en 2016. Efficace et réservé, le titulaire d'une maîtrise en sciences politiques obtenue à l'université de Yaoundé de Soa a mis au service de la chambre haute du Parlement son background riche de 16 années d'expérience à la société de presse et d'édition du Cameroun, Sopecam. Il y a été tour à tour directeur de l'administration et des finances, conseiller technique numéro 1, directeur du contrôle de gestion, puis directeur de la stratégie et du développement. Précédemment attaché au secrétariat général des services du Premier ministre entre 1993 et 1998. Le diplômé de droit public débute sa carrière au service du contrôle supérieur de l'État Consupé en tant que cadre de contrôle à la direction des inspections en 1990. Militant engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, Gustave Léopold Ngané est chargé de mission à la délégation permanente et régionale du Comité central pour le Sud. Au plan coutumier, le tout nouveau secrétaire général du Sénat est chef du village Doum et Samendjang dans l'arrondissement de Kampo et président de l'Assemblée coutumière de la communauté Mbaï du Cameroun.
J'ai découvert le beau pays, le Cameroun, pays continent, et je l'ai aimé. Je pars, mais je laisse mon cœur ici. Parole de diplomate arrivé en fin de séjour, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie au Cameroun, son Excellence Volkan Isiki, a été reçu cet après-midi à l'immeuble Étoile pour dire ses adieux au Premier ministre et chef du gouvernement, Joseph Dion Goûté. Au centre des échanges, le bilan de son séjour et les perspectives de la coopération entre Yaoundé et Ankara. Compte rendu d'audience, Laurentine Bokono.
En ce premier jour de travail de l'an de grâce 2025, l'immeuble Étoile fait honneur à la diplomatie. Arrivé en fin de séjour au Cameroun, où il aura exercé pendant 4 bonnes années, le diplomate turc a gravé son pays d'accueil sur le marbre de son cœur.
Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de rendre visite à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour une visite officiellement adieu, mais pour moi, c'est un au revoir. À d'autres occasions, je vais pouvoir contempler les beautés de ce pays dans d'autres circonstances. Je vais terminer bientôt mes 4 ans de séjour ici. Comme j'ai dit à son Excellence Premier ministre, c'est avec Cameroun que moi-même et ma famille, on a découvert le beau pays et le continent. On part, mais on laisse notre cœur et notre sentiment ici.
Au-delà de cette appréciation personnelle, l'axe Yaoundé-Ankara offre de belles perspectives de coopération.
Le bilan que je peux faire du point de vue professionnel, c'est un dynamisme qu'on a pu démarrer et que ce n'est pas la fin, c'est le début de l'approfondissement de nos relations dans le cercle de croissance économique. Économique, humaine et sociale entre les deux pays.
Des cadeaux plein les bras ont été remis dans la chaleur de la convivialité qui caractérise les relations entre le Cameroun et la Turquie. La preuve par le complexe multisport de Chapuma, fleuron de la coopération Cameroun-Turquie. Vu de l'extérieur, c'est un vaisseau spatial qui fait rayonner la ville de Douala. Autre grande révélation, la cimenterie Simport, une unité industrielle porteuse de croissance et d'emploi qui se dresse fièrement dans la zone industrielle portuaire des Kribi. Et ce n'est pas tout. Audience d'adieu, mais ce n'est qu'un au revoir, a confié l'hôte du Premier ministre avant de quitter l'immeuble Étoile, d'où je signe Laurentine Bekono, CRTV.
Le ministre des Forêts et de la Faune informe les opérateurs économiques de la filière bois détenteur des titres d'exploitation forestière valide qu'une permanence sera assurée par ses services techniques compétents, direction des forêts, direction de la promotion et de la transformation des produits forestiers et sous direction de l'accueil du courrier et des liaisons les 4 et 5 janvier 2025 de 8h à 15h en vue de faciliter l'établissement et le retrait des documents relatifs aux activités d'exploitation forestière pendant la période de transition 2024 à 2025. Le ministre des Forêts et de la Faune sait pouvoir compter sur la bonne collaboration des professionnels du secteur forestier. Cette note triste que je découvre en même temps que vous, le ministre de la Communication, président du conseil d'administration de la CRTV, a la douleur d'annoncer le décès de madame le docteur Épée Koto Mouyema Honoré Denise, membre ex-qualité du conseil d'administration de la CRTV, décès survenu ce jour à l'hôpital général de Douala, des suites de maladies en cette circonstance. Le ministre de la Communication adresse à la famille éprouvée en son nom personnel et au nom de l'ensemble des membres du conseil d'administration de la CRTV, ses condoléances les plus sincères auxquelles il associe l'expression de sa profonde compassion. Signé le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, PCA de la CRTV. Plus gai à présent, le premier bébé tracer de l'année 2025 est né ce jeudi 2 janvier 2025. Cette nouvelle naissance porte ainsi à 505 le nombre de bébés nés par fécondation in vitro au centre offert par le couple présidentiel. L'équipe du professeur Kassia promet de faire plus au cours de cette nouvelle année. Liliane Mouvungu, reportage.
3,1 kg, c'est le poids de ce petit garçon né ce matin au Crasser. Il vient ainsi déclencher les naissances de cette nouvelle année au centre, ce qui permet au maître des lieux d'exprimer la joie de toute l'équipe et de souhaiter la bonne année, non seulement au couple présidentiel, mais à tous les Camerounais. Professeur Jean-Marie Kassia, administrateur directeur général du Crasser.
C'est notre façon à nous de souhaiter bonne année, non seulement au couple présidentiel, mais à tous les Camerounais, en faisant venir au monde via la fécondation in vitro, un garçon très vivant, et pour nous c'est une joie immense de commencer l'année de cette manière. Et nous sommes à 505 bébés nés par fécondation in vitro avec celui qui est né aujourd'hui. Nous sommes le 2 janvier, grande joie pour nous, et nous dédions ce bébé au couple présidentiel, aux Camerounais, en guise de bonne année.
Il faut dire que l'équipe du professeur Kassia promet de travailler plus que par le passé pour résoudre davantage les problèmes gynécologiques des femmes et des couples à la recherche d'un bébé.
Patiente, elle avait des trompes qui étaient bouchées. Le mari avait un sperme qui était quand même acceptable. C'était une stérilité d'origine tubaire. Parce que sa première grossesse date d'il y a 20 ans. On ne peut pas lui imposer une chirurgie tubaire. Près de 40 ans, le profil hormonal commence un peu à tanguer, qui était une indication réelle de fécondation in vitro.
Le meilleur leader santé et du bien-être dans le monde est camerounais. Le jeune médecin généraliste de 28 ans, Dr Ousseini Samgwa, est le seul Africain distingué lors de la deuxième édition du Fortuna Global Excellence Award tenu à Dubaï. Le jeune lauréat en service au centre médical d'arrondissement de Bonamou Sadi à Douala 5e est fort apprécié par ses collègues et sa haute hiérarchie. Notre reporter Georges Alain Eyango de CRTV Littoral a passé une journée avec le lauréat.
Les clichés des bureaux restaient fermés peu avant la mi-journée de ce 2 janvier en disent long sur la défaite des préfètes subie par certaines administrations et entreprises à Douala. Une tendance tout en contraste avec l'assiduité observée au sein de certaines structures, à l'instar de la délégation régionale CNPS Littoral. Cyril Kongo, chef de centre adjoint CNPS Littoral.
Ce matin, je suis arrivé à 7h15. J'ai fait le tour de chaque bureau parce qu'il était question pour moi de souhaiter personnellement les meilleurs vœux à tous mes collaborateurs et m'assurer de la présence effective de chacun à leur poste de travail.
Une disponibilité de nature à rassurer les usagers.
Le service est continu, il ne s'est pas arrêté. Les agents sont courtois, ils nous reçoivent normalement. Pour notre administration, c'est encourageant quand même. Contrairement à certains codes administratifs, je vois qu'il y a quand même une différence.
Le service a également repris à la préfecture d'Ivory, en dépit de quelques lourdeurs observées au lendemain de la mouvance festive. Guy Manuel Chapganon, premier adjoint préfectoral de Douala.
Après l'euphorie de la fête, en tant que responsable du personnel à la préfecture, je suis là sur place. Tous nos collaborateurs sont là, même s'ils accusent un petit retard.
Des administrations qui disent vouloir miser davantage sur la discipline pour relever les multiples défis de cette année. Douala, Georges Alain Yango, CRTV.
Douala Fiesta, le temps du flashback après un succès retentissant pendant les fêtes de fin d'année. L'événement axé sur des animations et des activités socio-culturelles a tenu en haleine les populations au stade Fampou dans la commune de Douala, deuxième à la place d'Insamé à Bonabéry dans le 4e arrondissement et sur le site de Kamtel Bépanda dans le 5e arrondissement. Une initiative de la communauté urbaine de Douala qui s'est achevée en apothéose le 1er janvier. Cliché, reportage, Clovis Tiamabou.
Les fêtes de fin d'année ont été belles. Une fois de plus, Douala Fiesta a atteint ses objectifs. Pendant 11 jours, les trois sites opérationnels ont drainé au quotidien des milliers de personnes. Un succès éclatant. Roger Kingé Edjengele, directeur de la culture, du tourisme, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports, à la mairie de la ville de Douala.
C'est désormais une identité culturelle de la ville de Douala depuis 2020, où le maire de la ville est sorti de la Covid-19, a voulu offrir aux populations avant des temps festifs en fin d'année.
Des animations culturelles, des activités ludiques ont capté l'attention, de même que l'élection Miss, mettant en rivalité des candidates des 6 arrondissements de la ville.
On a vu Fido Guillaume et Péekoum, on a vu l'idole, Prince de Yago, et il y a d'autres encore qui sont des fois passés. C'est-à-dire que le maire de la ville qui était dans le culture a fait la part belle à la musique camerounaise.
Douala Fiesta a ainsi servi de plateforme à la révélation des talents. Et pour cette 5e édition, c'est la jeune Daniela Nguea Ompoto qui a été élue Miss Douala Fiesta 2024. Douala Clovis Chamabo, CRTV.
Quelques nouvelles à l'étranger avant le sport. Le Ghana lève l'exigence de visa d'entrée pour les Africains, mesure entrée en vigueur hier, 1er janvier. Tout citoyen du continent peut entrer, sortir, circuler librement au Ghana sans visa. Le Ghana rejoint ainsi 4 autres États appliquant déjà cette mesure. Le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. Un pas de plus vers la promotion de la mobilité intra-africaine. En RDC, le président Félix Tshisekedi a marqué la fin d'année par un geste symbolique en signant une ordonnance accordant une mesure collective de grâce qui prévoit des remises et des réductions de peine pour certaines catégories de détenus. Des nouvelles brèves rédigées par Jean-Philippe Ebela. Le sport, football, les locaux tenus en échec ce jeudi, un match avancé de la 6e journée du championnat MTN Elite One, un but partout entre Coton Sport de Garoua et Astre de Douala. C'est sur le même score que Gazelle de Garoua et Aigle du Mongo se sont séparés au stade Omnisport annexe de Rumdiaja. Cette journée s'achève dimanche prochain avec les 6 dernières rencontres. Présentation des affiches, Didier Marius et Tundi.
Cette 6e journée, avec des chocs palpitants, la Panthère sportive d'Undé reçoit à Banjoun le canon sportif de Yaoundé. Le Kwakum, qui sort d'une défaite devant Dynamo de Douala, nourrit l'envie d'une victoire. Non loin, en Bouda, Bambutos va se mesurer à PWD de Baminda. Au stade Mbappé-Lépé à Douala, 2 matchs sont au programme. À 13h30, Dynamo accueille Onsport Academy de Baminda et puis à 15h30, Union sportive de Douala joue contre Colombe du Sud, actuellement en tête de classement avec 11 points, à l'annexe 1 de l'Omnisport. Coup double également à 13h30, AS Fortuna croise Stade Renard de Melon et à 15h30, Fauve Azur affronte Victoria United.
À retenir de ce journal qui se referme, le taux de croissance projeté à 4,1% en 2025. Le Cameroun poursuit sa marche vers l'émergence. Le président de la République a réitéré l'engagement des pouvoirs publics à consolider la croissance économique malgré un environnement international troublé. Un nouveau secrétaire général au Sénat, Gustave Léopold Ngané, conclusion des travaux de la Chambre haute du Parlement tenue ce jour à Yaoundé. Et puis sport, football, 2 clubs du Nord et 2 du Littoral se partagent la poire en 4 à la 6e journée avancée. Elite One, Coton Sport de Garoua 1, Astre de Douala 1, même score de parité entre Gazelle de Garoua et Aigle du Mongo, un but partout. Suite et fin de cette journée ce dimanche, à suivre Panthère Canon et Union de Douala contre Colombe de Sangmélima. Équipe de production technique Désiré Melingui, réalisation Coralie Laetitia Emini, Jean-Philippe Ebela, rédacteur en chef soir, Simon Lyonga. Il est 20h29 à Yaoundé. Bonsoir.